Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage. 2 heures de découverte et de gaieté pour vous, de compétition et de haine recuite pour eux. Car vous le savez désormais, chaque après-midi, fini les palabres sans fin à la photocopieuse, les blagues potaches à la machine à café.
Non, juste un doigt.
Cette saison, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 sont amenés à se dépasser. Or, pour se dépasser, quoi de mieux que de se bastonner? Chaque après-midi, au service de votre culture G, les meilleurs journalistes de la rédac se déchirent pour le titre de chroniqueur du jour, sous l'œil d'un invité arbitre de renom. Aujourd'hui, c'est avec une émotion non feinte que nous accueillons un des plus grands comédiens français. Je l'aime énormément.
Oui, mais enfin, toi, tu m'aimes comme un ami.
Bah oui, alors.
Alors que moi, je t'aime physiquement.
Bien, mesdames et messieurs, Pierre Arditi. Bonjour, Pierre.
C'est consternant. C'est déjà consternant. C'est horrible. Cette radio est en chute libre. Voilà, c'est la fin, c'est les derniers instants. Profitez-en, ça ne va plus durer très longtemps, Europe numéro 1.
Moi qui allais commencer par une flatterie. C'est simple, il n'y a pas de rentrée théâtrale réussie sans vous, Pierre Arditi. Peut-être que je vais changer mon début. Vous jouez compromis au théâtre. Vous jouez compromis au théâtre des Nouveautés à Paris avec Michel Leb jusqu'au 5 janvier. Le compromis, Pierre, c'est le fondement même de l'amitié, j'ai l'impression, avec vous.
Oui, oui, ça n'est pas une trahison ni un reniement, c'est une preuve d'amour, le compromis, comme dirait Philippe Claudel. Nous vivons tous avec des compromis. Des compromis, sinon des compromissent, pas pareil.
L'amitié.
Je vous expliquerai ça plus tard.
Oui, parce que c'est une longue histoire.
Ça va un peu élever le niveau de
On n'est peut-être pas encore prêt intellectuellement.
L'émission à la con, je ne sais pas quoi.
L'amitié est faite de compromis, je suis bien placé pour le savoir. Je vous présente Eva Rock. Sans révéler son âge, on parlera d'une amitié de longue date. Ça fait quelques années qu'elle est dans le métier, vous la connaissez certainement, Pierre.
Moi, je l'ai connue marchande de 4 saisons et les voitures à chevaux des glacières de Paris.
Ah, bah, vous la remettez, c'est ça. Eva, vous nous direz tout à l'heure quoi regarder à la télé ce soir, sachant que Pierre a une prédilection pour tout ce qui est bien nul, hein, vous verrez. Mais d'abord, un grand philosophe a dit un jour: en compétition, il y a toujours un premier et un dernier, mais l'important est de ne pas être le second de soi-même.
Ah, Oscar Wilde.
Non, Luis Fernandez. Pierre Arditi. C'est vrai, hein, c'est véridique. Hein.
Non, mais ça ne peut pas durer 2 heures, je trouve que c'est pas possible.
Si.
Ça ne va pas tenir, les gens, pour la regarder dans la cabine du son, ils sont déjà anéantis, les mecs, ils ne peuvent plus. Ils ont mis des boules caisses.
Je vous présente, c'est comme ça qu'ils s'en sortent tous les jours. Je vous présente, Pierre, nos deux premiers journalistes en compétition aujourd'hui à ma gauche. Il joue très gros, puisqu'il m'a affirmé, très sûr de lui, limite goguenard, qu'il avait dégoté un enregistrement inédit du D-Day. Attention Jean-Philippe, si votre inédit c'est cette archive de la retraite allemande.
Je vais finir par distribuer des petits bonbons au cyanure à tout le monde et il y aura moins de bruit, croyez-moi.
On connaît déjà ça hein, Jean-Philippe, c'est autre chose.
Non, moi c'est high level aujourd'hui, c'est un document sonore totalement inédit, retrouvé dans un cabanon comme ça perdu quelque part aux États-Unis. Vous écouterez, c'est saisissant.
À ses côtés, mon cher Pierre Arditi, une figure de la rédaction d'Europe 1. Vous le connaissez certainement de réputation.
Un sexe, un braque-pas en furie.
Non, j'entends professionnellement, Pierre, professionnellement, voici Nicolas Caron. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes le monsieur livre d'Europe 1. Et cet après-midi, à l'occasion de la réédition d'American Psycho, vous nous parlez d'un monstre sacré de la littérature américaine, Bret Easton Ellis.
Bah oui, comme c'est le plus grand roman du monde avec le plus grand écrivain du monde, je me suis dit que ça valait le coup, quoi.
Et vous l'avez rencontré.
Bah oui, j'ai même
genre
un
physiquement.
Son de Bret Easton Ellis.
Oh, on a hâte. Voici pour le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc, et je le dis avec d'autant plus de sincérité que je n'ai pas de pièce à lui refourguer, mais tenez quand même. Vous verrez, c'est excellent, Pierre. On a déjà l'actrice principale, le théâtre et le metteur en scène. Il n'y a plus qu'à signer, on est parti. Hein, sur les droits, je propose un petit 50-50, on s'en parle hors antenne. C'est donc, disais-je, le plus grand comédien français. Pierre Arditi nous accompagne cet après-midi.
Il a vraiment donné une pièce.
Je vais vraiment donner une pièce,
c'est vrai. Et alors, en plus, je vais vous dire, un cœur tout neuf, c'est comme ça.
C'est un très bon titre.
C'est impayable, c'est bon. Alors allons-y. Oui.
Non, vous allez adorer. Vous allez l'ouvrir et vous allez adorer.
J'ai déjà
pour
compris.
L'instant.
Le rôle principal à 32 ans. C'est un peu compliqué pour moi, mais avec un bon lifting, on peut voir.
Tout est possible. Pour l'instant, vous êtes à l'affiche avec Michel Leb de Compromis, une pièce de Philippe Claudel, mise en scène par Bernard Murat au Théâtre des Nouveautés à Paris. Qu'est-ce qui vous a séduit en premier dans ce projet? La pièce elle-même ou le fait de jouer avec Michel Leb, qui est, vous me disiez, un vieil ami avec qui vous n'aviez jamais joué?
Michel et moi-même, on se croise, vous savez, comme des chats se croisent dans la vie. Alors on se tourne autour, on s'aime bien, on fait pas les mêmes trucs. Et on s'est dit qu'à un moment donné, on ferait un bon couple atypique, ce qui est exactement le cas. Et donc Claudel s'est immiscé dans la brèche et puis il a écrit cette pièce pour nous.
Je dois dire
qu'honnêtement ça fonctionne bien. Je suis ravi je suis tout à fait content de. Vous savez, des découvertes comme ça, c'est pas si simple. Et là, je dois dire que la découverte avec Michel est non seulement une découverte professionnelle, mais une découverte amicale très importante.
C'est beau, comme quoi vous avez aussi un cœur. Eva Rock.
Il essaie de fourguer sa pièce,
mais
quoi
non,
qu'il
arrive. Il est incroyable. Il est incroyable.
Donc, si vous voulez, c'est un cœur tout neuf, c'est pour vous.
Pierre, des années que je le supporte. On va rappeler le pitch de, comme on dit, hein, le pitch de la pièce. Vous êtes Denis, vous incarnez un acteur qui vend son appartement. On est le jour de la signature.
Raté, hein.
Un rôle de composition.
Non, pas du tout. Non.
On est le jour de la signature du compromis pour votre appartement. Vous avez demandé à votre meilleur ami Martin, qui est dramaturge un peu raté lui aussi. Hein. Il n'arrive pas à signer
jamais joué,
pièce.
Jamais monté, jamais joué.
Vous lui demandez d'être présent parce qu'il est rassurant, dites-vous. Alors, être rassurant, c'est bien surtout quand il y a deux ou trois vices cachés dans l'appartement en question. Oui. Et en attendant l'acheteur, vous dissertez avec votre ami et quelques rancœurs ressurgissent en tout cas. Le ton de la discussion va crescendo, notamment quand l'acheteur arrive. Et on sent rapidement que vos joues verbales vous réjouissent au point que quand on est spectateur dans la salle, on a l'impression d'avoir une comédie dans la comédie. Il y a un peu, vous savez, l'effet Inception, quoi. On ne sait plus trop où on en est, mais le monde entier est un théâtre, comme disait l'autre. Donc j'imagine que c'était un peu ça aussi le pitch de Claudel. En tout cas, c'est réjouissant. On vous conseille vraiment d'aller voir cette pièce.
C'est au Théâtre des Nouveautés jusqu'au 5 janvier. Pierre Hardité, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue avec une séquence qui justement devrait plaire à Pierre Arditi, grand amoureux des mots.
Je baffre les mots.
Oui.
Je les engloutis, je les broie.
Oui, amoureux
mais
du pinard aussi.
Chercher tout
ça. Vous en avez fait, vous en avez donné des interviews. Hein. On en parlera tout à l'heure. Dans un premier temps, à l'occasion de son passage à Paris, on évoquera donc un géant de la littérature américaine que Nicolas Caro a rencontré pour nous, l'auteur d'American Psycho, Bret Easton Ellis. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Comme Pierre Arditi, vous cultivez un certain éclectisme. Vous pouvez aussi bien déguster un mouton Rothschild 82 devant un reportage d'Arte sur la déconstruction structuraliste de Heidegger que vous divertir devant un bon vieil épisode des Chiffres et des Lettres.
9 lettres, avec enculage au pluriel.
Vous allez adorer. L'épisode 272, on est meilleur.
Il faut le virer, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible.
Vous allez adorer l'équipée sauvage, 2 heures hybrides à mi-chemin du journalisme rigoureux et du divertissement potache. Une cruelle compétition aussi entre les journalistes de la rédaction. Un seul sera élu chroniqueur du jour, peut-être Nicolas Caro, notre spécialiste littérature. À l'occasion du passage à Paris d'un géant de la littérature américaine, il va nous parler de Bret Easton Ellis et de son roman culte, American Psycho. Mais dans quelle mesure n'est-il pas un psychopathe lui-même? C'est la question que se pose parfois Eva.
Je la filme beaucoup aussi, je stocke tout ça sur des disques durs externes, je le fais depuis que nous sommes rencontrés.
Bon, il est bizarre, mais je vous rassure, il a quand même quelques principes.
Défigurer un ado, ça ne se fait pas.
Bien, bah ça c'est quand même c'est rassurant. Nicolas Caro, vous avez donc rencontré Bret Easton Ellis.
Oui, parce que Robert Laffont réédite American Psycho et Bret Easton Ellis est venu pour parrainer le prix Fnac. Voilà, il a remis le prix Fnac la semaine dernière. Donc, je l'ai rencontré, effectivement. Et j'avais envie de vous parler d'American Psycho. Selon moi, c'est le plus grand chef-d'œuvre du monde. C'est l'écrivain contemporain vivant le plus talentueux, selon moi, aujourd'hui. Pas que selon moi.
Mais pas son et dernier livre, alors. Hein.
American Psycho. Bah non, mais White, c'est un essai. Écoutez, non, mais moi, je vous parle d'American Psycho, qui est un chef-d'œuvre publié en 1991 et qui est surtout un immense témoignage du monde contemporain, particulièrement de la fin des années 80, mais qui est encore valable et très moderne aujourd'hui. L'histoire, je vous rappelle, c'est Patrick Bateman, qui est un golden boy, trader, cynique, raciste, homophobe, bon, qui a beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis qui s'ennuie un peu au fond et qui cherche, qui est tout dans le paraître. Je sais pas si vous vous rappelez cette scène de la carte de visite où entre collègues ils comparent leurs cartes de visite et lui il pète un câble parce que son collègue a une carte de visite beaucoup mieux faite que lui, avec la couleur est beaucoup plus subtile, etc. Donc ça, il devient complètement fou. Et c'est pas seulement à cause de ça, mais il se trouve que c'est aussi un psychopathe, sociopathe qui tue des gens de temps en temps avec une extrême violence. Et évidemment, c'est une métaphore du monde et de la cruauté et de la violence de ce genre de sociologie.
C'est pas un roman, il me semble que dans White, son dernier roman, il rappelle que ça avait failli ne pas sortir, non ? Ça avait été.
Absolument. C'est là où je voulais en venir. En fait, American Psycho, c'est aussi un témoignage de la censure moderne, c'est-à-dire qu'effectivement, des éditeurs lui avaient tourné le dos, alors que Bret Easton Ellis, quand il publie American Psycho, il est déjà très très haut dans la littérature. Il a publié Moins que Zéro, Les lois de l'attraction, etc. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel pour les éditeurs, et malgré ça, à cause de cette violence, et aussi à cause du fait que les éditeurs ne comprennent pas où il veut en venir, parce qu'American Psycho, c'est plein de descriptions de vêtements. Il peut passer trois pages à décrire un costume, quoi, ou alors à parler d'un disque, à faire une critique de disque au milieu de l'intrigue. Et donc c'est un ovni, ce truc-là, c'est complètement délirant, en fait. Mais c'est ça ce qui en fait un livre génial. Mais quoi qu'il en soit, il a été effectivement censuré. Il en a reparlé à l'occasion de la parution de White, son essai, et il m'en a reparlé, mais aujourd'hui en rapport avec les réseaux sociaux. Il considère qu'aujourd'hui, vraiment, on ne peut plus rien dire du tout, c'est impossible. Écoutez-le.
C'est ridicule, c'est absurde. Nous vivons dans une société absurde. On ne peut plus soutenir une opinion. Une opinion, c'est juste ma vision des choses. Et si ça vous blesse, c'est votre problème. Ce n'est pas mon problème. Mais tout le monde se victimise maintenant. Tout le monde est tellement fragile.
Voilà, ensuite il dit qu'on vit dans un monde terrible, qu'on se comporte comme des enfants, qu'il faut faire toujours attention aux sentiments des autres, qu'il faut surtout pas offenser, et surtout, il termine en expliquant que c'est très très dangereux pour les artistes, et pour ceux surtout qui bousculent, les artistes dangereux, quoi, qui prennent des risques, qui vont, qui explorent les tabous, etc. Et donc il conclut que c'est une société aujourd'hui qui a du mal avec l'art et qui ne se soucie plus vraiment de la liberté artistique.
Vous êtes d'accord avec ça, Pierre-Yves ? Cette chape de plomb du politiquement correct, vous la sentez ?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Absolument. Ça, c'est un des chancres de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est alors on dit oui, mais alors, en passant, il y a machin, le respect, c'est comme ça. Oui, bien sûr, okay, alors, on peut respecter. Enfin, en même temps, on est là pour prendre le monde, le mettre la tête à l'envers pour voir ce qu'il y a sous ses jupes, parce que sinon, c'est pas la peine. Maintenant, quand quelqu'un se casse un ongle, d'abord, il faut lui rendre hommage avec des bonbons, des pinounours et des carambars. Il faut mettre en place une cellule d'aide psychologique pour arrêter, quand même. Sinon, c'est pas la peine. On va se coucher et puis on se met dans un transat et on attend la mort.
J'ai l'impression que vos chroniques, Nicolas Caro, a intéressé notre invité.
Là, on a paumé un maximum de gens. Ils n'étaient déjà pas très nombreux, mais là, à mon avis, là, ils doivent être. Ils sont peut-être encore 45. Il faut voir. Il faut faire gaffe. On risque de se trouver
48,
avec zéro.
Me dit-on. Hein. 48. Merci, Nicolas Caro. Eva, vous l'avez trouvé comment ?
Psychopathe.
Oui, c'est ce que j'ai dit aussi à la médecine du travail. Il faut se pencher sur le cas de Nicolas Caro. Vous pouvez actuellement l'applaudir au théâtre des Nouveautés dans Compromis, aux côtés de Michel Leeb. Pierre Arditi est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
C'est une période trouble que celle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu les lâches.
Tirez-vous, les foutus !
Et les héros.
Je vous présente le colonel Vincent, super résistant.
Moi, je vous appelle super ou résistant.
Appelez-moi super, pas de chichi.
Événement décisif dans ce conflit, le débarquement de Normandie. Vous croyez tout savoir ? Vous pensiez avoir tout entendu sur le D-Day. Jean-Philippe Ballas, le Anderson Cooper de Malakoff, vous détrompera. Ce sera juste après Patrick Bruel. Stand up sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec un invité de marque aujourd'hui. Il est à l'affiche de Compromis au Théâtre des Nouveautés à Paris. Il est en pleine forme.
Quand je caresse Solange, par exemple, eh bien, c'est à toi que je pense.
Bien, Pierre Arditi, parlons plutôt de la pièce. Très belle pièce hein, de Philippe Claudel, mise en scène par Bernard Murat. C'est une histoire d'amitié et de règlement de compte. Mais au fond, y a-t-il d'amitié sans règlement de compte, Pierre ?
C'est difficile, oui. Une amitié, encore une fois, ça se nourrit de beaucoup de choses. C'est ce qui rapproche, d'ailleurs. Hein. Moi, il m'est arrivé de mon palais de Bernard Murat, qui est mon meilleur ami, oui. Qui est mon ami le plus ancien et le meilleur, d'ailleurs. Et on s'est quand même déjà pris au callback dans notre vie. Pas souvent, mais quand même.
Ah, 3-4
fois, assez sérieusement. Oui, oui. Vous savez, il y a un truc, une étincelle qui se produit, puis tout d'un coup, ça peut voler en éclats. Bon, alors, comme on n'est pas trop con, on a réussi à repartir sur de bonnes bases, comme on dit, mais ça arrive, oui, absolument. C'est peut-être ce qui forge, d'une certaine manière, une amitié plus forte encore.
Hein. On devrait plus s'engueuler avec Eva, hein. On s'engueule pas assez.
Alors, s'engueule pas assez,
le
ouais.
Face-à-face, Michel Labarditi est déjà en soi croustillant, mais pour ajouter encore un peu de sel, la pièce démarre peu avant l'élection de Mitterrand en 81. Être renvoyé à cette période de 1981, pour vous qui avez toujours été engagé politiquement, ça vous fait quoi ? Ça vous évoque quoi, la gauche aujourd'hui ?
ça m'évoque pas la gauche d'aujourd'hui, ça c'est
oui,
clair.
Oui, ça c'est oui.
Ça, celle-là, malheureusement, ouais. elle n'est pas formidable, je le regrette, ça n'est pas... c'est pas jubilatoire pour moi. Mais ça évoque beaucoup de choses, ça évoque le 10 mai à la Bastille, sous des trompes de flotte avec mon fils qui avait 11 ans sur les épaules et qui ne comprenait pas, qui râlait parce qu'il ne comprenait absolument rien, que ça n'intéressait pas du tout, alors que nous on pensait jamais que cette chose-là pourrait arriver.
Et aujourd'hui, vote Macron.
Aujourd'hui, j'ai voté Macron, oui, je vote Macron.
Ah oui, ça
oui,
y est.
Oui,
ah, vous êtes
oui.
Un converti.
Non, je ne suis pas un converti. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je le suis moins. J'aimerais bien que ça penche un peu plus du côté gauche, personnellement. Voilà. Après, il tente des choses. Il a au moins ce courage, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a du courage. de mettre sur la table un certain nombre de choses sur lesquelles il faut se poser des questions. Je veux dire qu'on ne vit plus de la même manière aujourd'hui qu'on vivait en 1981. Quand j'étais jeune, on m'expliquait qu'on vivrait mieux nous que nos parents. Et j'ai pensé, moi, que mon fils vivrait mieux que moi. Mais ça n'est pas vrai. C'est faux. C'est absolument faux.
Tout c'est ça, une parenthèse, les tombes glorieuses.
Rien. On va dans le mur et toute une série de catégories sociales importantes. Je veux dire que les profs, les instituts, c'est ceux qui vont former les femmes et les hommes de demain. Le monde rural, il est en perdition parce qu'ils ne savent. Ces mecs-là, on leur dit tous les 3 ans ou tous les 2 ans ou tous les ans, il faut qu'ils changent de système parce que ça ne va pas. À quel moment ils peuvent se dire bon, ben, on fait ça et ça va. Ça ne va pas. À force de traiter l'urgence aux dépens de l'essentiel, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Voilà. C'est une phrase admirable, qui n'est malheureusement pas de moi, qui est d'Edgar Morin. Et bien celle-là, il faut se la garder là, parce qu'elle est très importante. Et à un moment donné, si le progrès ne sert pas à faire que ces hommes et ces femmes aillent moins mal, alors il n'y a pas de progrès et il faut se bagarrer contre ça.
Justement, pour oublier tout ça et oublier cette société qui va mal, après cette tirade épique de Pierre Arditi, je vous propose d'aller le retrouver ce soir au théâtre pour rire un bon coup.
Oui, c'est
plus drôle. Compromis, en ce moment, au théâtre des Nouveautés à Paris jusqu'au 5 janvier, puis en tournée dans toute la France. Pierre Arditi passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Les compromis, nous, ça nous connaît, c'est même le cahier des charges de l'équipe Et Sauvage. Vous divertir sans vous abrutir, pour y parvenir, on a pris le meilleur du capitalisme et du communisme. De même que dans la Russie de Staline, chaque kolkhoz élisait l'employé du jour, on désigne ici le chroniqueur du jour. Sans la sanction du goulag, c'est beaucoup plus rieur, vous verrez. À suivre, justement, on se replonge dans l'histoire avec Jean-Philippe Ballas qui aurait déniché un extrait audio inédit du D-Day. Mais comment vous avez fait ?
Ça s'appelle le talent, je crois.
Oui, l'humilité, en revanche, ne fait pas partie de notre cahier des charges. A tout de suite.
L'équipe Et Sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est à la fois une joie, une fierté et une lourde responsabilité que d'accueillir aujourd'hui dans l'équipe Et Sauvage un acteur de la stature de Pierre Arditi. Oui. En effet, certains m'ont mis en garde. Attention Mathieu, Pierre Arditi c'est un génie, mais il a tendance à beaucoup parler et à vouloir à tout prix faire le show. Bon, non...
Je voudrais essayer de vous intriguer, de vous amuser, de vous méduser, de vous enthousiasmer,
Oui, on a compris, bon. Bienvenue dans l'équipe Et Sauvage, 2 heures d'une compétition haletante entre les journalistes qui auront la lourde mission non seulement de vous proposer le meilleur sujet, mais surtout de parler plus fort qu'Arditi. Vous pensez que c'est possible, Pierre, ils vont y arriver ?
Oh oui, ils vont très bien y arriver. J'aime beaucoup votre nouvelle barbe, on dirait le Brahman Boudou. Ça fait très plaisir.
Mon nouveau surnom, j'aime bien.
Le Brahman Boudou.
Pierre Arditi, que vous retrouvez en ce moment au Théâtre des Nouveautés dans Compromis, très beau moment de comédie où vous donnez la réplique à Michel Leeb. Au fait, je me disais, vous ne devez pas pleurer en coulisses avec Michel Leeb. Comment ça se passe ?
En coulisses, on ne pleure pas, mais sur scène non plus.
Ah oui, c'est sûr. Ça continue.
On est à la limite absolue de...
Vous avez déjà eu des fous rires ou des pertes de contrôle ?
Sur, quand on commence à faire les ringards, quand on commence à être dans la comédie de la comédie, là, c'est épouvantable. En plus, il fait dire « Tu m'amates !» C'est insupportable.
On continue de parler de cette pièce, mais pour l'heure, place à la compétition. Voici venir notre deuxième concurrent du jour. Méfiez-vous, Pierre, de son sourire dans la rédac, on l'appelle Mister Fauderche. Sa stratégie, la flagornerie. Flatter l'invité pour engranger des points. Mardi, soit Gérard Ramon était vraiment hilarant, soit Jean-Philippe en a un peu trop fait. Il a un peu forcé son rire, histoire de finir premier.
Je veux bien notre café, avec un Ricard dedans.
Jean-Philippe Fauderche, on vous écoute.
Défendez-vous, Jean-Philippe.
On va tout de suite se mettre dans l'ambiance, les amis.
Ah oui,
écoutez,
changement d'ambiance.
Écoutez bien et attention, c'est pas du cinéma. Alors vous entendez cette voix, ces détonations, vous êtes sur le pont d'un navire américain au large des côtes normandes, au-dessus de votre tête c'est l'aviation allemande et nous sommes le 6 juin 1944. Cet enregistrement sonore, c'est bien celui du D-Day et vous vivez l'événement en temps réel. C'est un reportage de 13 minutes qui est signé George Hicks, c'est un journaliste de 38 ans à l'époque et en fermant les yeux vous allez comprendre l'expression « un déluge de feu ». Voilà, c'est absolument ininterrompu. Alors d'où vient cette bande ? Eh bien, elle était retrouvée totalement par hasard dans une petite bicoque du côté de Long Island, c'était dans les années 90. Dans un coin comme ça, il y avait une caisse avec des vestiges de la guerre, dont ces enregistrements. Le problème, c'est que la machine qui avait servi à réaliser le reportage, eh bien, cette machine n'existe plus aujourd'hui. Ah. Il était impossible de lire les bandes. Alors finalement, au bout de plusieurs années, le propriétaire de la maison va finir par trouver un technicien qui va finir par trouver le moyen d'écouter le reportage. Et après vérification des historiens, on a la certitude aujourd'hui qu'il s'agit bien d'un trésor. Les originaux du journaliste George Hicks, lui il est mort en 65. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le propriétaire a décidé de remettre cet enregistrement au mémorial du D-Day, c'est en Virginie, je l'ai lu ce matin dans le Washington Post. Et les spécialistes qui ont écouté la totalité de la bande, ces spécialistes vous disent que c'est absolument saisissant, c'est effrayant. On entend le souffle court du reporter, on entend le bruit, la fureur. Alors, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images, notamment dernièrement avec le 75e anniversaire, beaucoup d'images du D-Day en noir et blanc. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, ils se disent « bah, c'était il y a longtemps, c'est loin tout ça ». Je vous garantis que quand on se concentre uniquement sur le son, vous vivez vraiment l'événement direct. Vous êtes sur le bateau hein, avec le journaliste. Et on se dit que finalement, attention, c'était pas il y a si longtemps.
Mais attends, il était sur le bateau, donc il a pris des risques de dingue. Enfin, et c'est un miracle qu'il soit...
Ils étaient pas nombreux. Hein,
c'est ce qu'on appelle littéralement le reportage de guerre. C'était les premiers vrais reporters de guerre à cette époque.
Il n'y en avait pas beaucoup, je crois, ce jour-là, en plus.
Il y en a quelques-uns, quand même, célèbres. Il y a Kappa.
Il y a Kappa, qui a pris cette fameuse photo. Mais c'est vrai qu'ils étaient très peu nombreux. Et qu'on a peu retrouvé d'originaux, finalement, de cette époque.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas. Vous connaissez la règle, elle peut tomber à n'importe quel moment. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Nicolas Caro, oserez-vous une question vache sur un sujet aussi sérieux?
Déjà, je l'ai lu dans le Washington Post ce matin. Calmez-vous un peu, Jean-Philippe.
Pardon, mais j'ai rencontré Bret Easton Ellis, ça se pose là aussi. Hein. Voilà.
Bon, deux frimeurs.
Vous nous avez parlé du D-Day, mais quelle est l'heure H du débarquement?
Ah, il est collé, le Ballas, le Anderson Cooper de Malakoff.
En plus, je l'ai su il y a quelques mois.
Oui, moi aussi, quand j'étais en terminale, je l'ai su, mais là, je l'ai oublié.
Minuit 50, parachutiste.
Merci.
1h10, voilà. Oui. J'étais dans le ventre de ma mère depuis 4 mois.
Oh.
Oui.
Ah oui,
vous êtes... Je suis né le 1er décembre 1944. Oh. Donc, le 6 juin 1944, j'étais dans le ventre de ma mère depuis 4 mois. C'est effrayant, ça fout la trouille. Ça fout la pétoche. On se dit, putain, pourvu que je ne finisse pas comme ça. Quand je vous regarde, c'est effrayant. Ça fait peur. Plus le brahman boudou qui...
Merci Jean-Philippe Ballas. Votre sujet aura-t-il captivé notre invité? Réponse, peu avant 18h. Il est à l'affiche de Compromis au Théâtre des Nouveautés à Paris. Pierre Arditi nous accompagne jusqu'à 18h. Et s'il est sage, il y aura même du pinard.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures d'un joyeux pijuila entre les meilleurs journalistes de la station, des compétiteurs qui ont parfois néanmoins besoin de souffler. Leur moment préféré, le quiz qui oppose l'invité à Eva Rock. Quiz qui est souvent l'occasion pour Eva de se faire défoncer par l'invité, ce qu'elle n'apprécie pas forcément.
C'est élégant, c'est gracieux.
Arrête de parler dessus.
C'est élégant, c'est gracieux de se faire défoncer par l'invité.
J'aurais dû dire de se faire... D'habitude, je mets atomiser. Là, j'ai voulu varier sans voir qu'il pouvait y avoir... Effectivement.
Ça va. On va y aller, là.
Je risque de tomber aussi à mon tour. Aujourd'hui, en plus, Eva a ses chances puisque c'est un quiz musical qui vous attend. Et la musique, comme on a pu le découvrir hier, ça la connaît.
C'est moche. D'accord.
Ça tombe bien parce que nos auditeurs non plus. Annie Méloman, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il nous accompagne cet après-midi alors qu'il joue ce soir au Théâtre des Nouveautés à Paris. L'immense Pierre Arditi est notre invité. C'est la musique des Molières. Vous l'avez reconnu. Combien de Molières, Pierre?
Alors, combien de Molières? 1.
Combien de César?
Comme meilleur acteur dans un second rôle. Moi qui ai passé ma vie, à jouer au théâtre, j'ai été nommé un certain nombre de fois, mais tout le monde pense que j'en ai eu 25 et je n'ai jamais eu le Molière du meilleur acteur, mais je ne le mérite sans doute pas. Oh. Donc, ça m'est complètement égal. C'est pas grave, ça m'a fait plaisir quand j'ai eu le premier Molière d'Histoire des Molières, puisque le Molière du meilleur acteur dans un second rôle était le premier Molière remis à l'époque, en 1986 ou 7, je crois. Combien de César? 2. Un comme meilleur acteur dans un second rôle et un comme meilleur acteur tout court.
Ah, meilleur acteur tout court. Voilà. Vous êtes donc sur scène dans Compromis au Théâtre des Nouveautés avec Michel Leeb.
Et Stéphane Pézerra.
On le cite. En parler quand même parce qu'il est formidable dans le spectacle. Ouais. Hein. Oui. Alors, il est moins connu, c'est normal. C'est normal qu'il soit moins connu que nous, c'est très bien, mais enfin, on peut en parler un petit peu comme...
J'ai pas envie d'être trop flagorneur avec vous, Pierre, d'autant que vous passez votre temps à nous tacler, mais c'est vrai que vous êtes quand même un acteur assez phénoménal dans le sens où vous êtes toujours bon, vous êtes toujours excellent dans n'importe quelle pièce, en fait, quel que soit le texte, vous êtes incroyable. Si, Pierre. Ouais. Pas de fausse modestie. Est-ce que vous avez toujours le trac après 50 ans de carrière, au moment d'entrer en scène? Ou est-ce que vous savez que...
C'est pas pareil. Quand j'étais très jeune et que je commençais, je tenais pas sur mes cannes. Et je me disais, mais tout le monde va le voir, ça faisait ça. Mes jambes, elles tremblaient comme ça. Je me disais, mais ça va être épouvantable. Bon, même si on va me balancer les tomates pour que je sorte de scène immédiatement, tout le monde doit voir que je trempe. Personne ne le voyait, évidemment. Il n'y a que moi qui n'y a pas. Donc j'avais peur que les gens, dès que j'étais rentré en scène, me sifflent parce qu'ils vont me dire qu'est-ce que fait ce connard. Il faut qu'il sorte. Bon, 55 ans plus tard, car c'est exactement ça, 55 ans, honnêtement, pas de fausse modestie, les gens viennent aussi pour me voir. Ah, oui, peut-être ça. Parfois même
c'est sûr.
D'abord. Et donc, je ne peux pas dire, oh bon, écoutez, non, j'ai peur qu'on me cite. Non, voilà. Donc maintenant, c'est autre chose. Maintenant, j'ai peur, moi, de ne pas être au niveau de ce que les gens ont pu rêver de voir. Il y a une très belle phrase de Michel Bouquet qui dit « N'oubliez jamais que le public ne vient pas pour vous voir jouer, il vient pour jouer avec vous. » Eh bien, voilà. J'espère tout arriver à jouer avec eux. Enfin, apparemment. Hein.
Ah, ça a bien marché. Ça dimanche, on a bien joué avec vous.
Ça a l'air.
Et je crois que vous aussi, vous avez envie de jouer avec Pierre Arditi.
Elle a le trac et pour cause, surtout sur le thème de la musique. Elle a, disons, certaines lacunes qu'elle tente de cacher habilement en bluffant, comme hier, face aux explications pointues de notre expert lyrique Laure d'Autriche. Elle a fait croire qu'elle avait compris. Écoutez.
Vous avez eu l'impression d'entendre un bémol parce qu'en fait c'est la gamme de Do, mais je l'ai commencé à la note Sol pour pas que ce soit trop long. Ça donne le sentiment d'avoir un bémol, mais en fait c'est la gamme de Do.
Ah d'accord.
Ouais, genre t'as compris. Pierre Arditi, pour évoquer Compromis, cette pièce de théâtre qui se déroule sur fond de tractation immobilière, nous avons conçu un quiz musical immobilier. Principe simple, je vous fais écouter des chansons sur le thème des maisons, mais une personne va sonner. À vous de trouver la parole qui a disparu derrière la sonnette. Un mot trouvé, c'est vicieux, hein. Un mot trouvé, bon, un
pas
point.
Vicieux, c'est impraticable.
Alors, ah, vous allez voir. Pierre Arditi, on commence avec La Maison Bleue de Maxime Le Forestier.
Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester.
Peuplée de fous, elle sera la dernière à rester.
Debout.
Bravo, Pierre Arditi.
Elle sera dernière à rester debout.
J'adore cette chanson. Non, moi, l'Alzheimer est en pleine forme. Enfin, c'est la catastrophe pour moi, un truc comme ça. Hein.
Ça vous avez quand même marqué un point. Bon. Eva Rock, je vous invite dans la maison de Claude François.
Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton...
Ah, tiens, ils berceront ton quoi? On écoute la...
Ton cœur?
Ton cœur, on écoute,
oui,
la réponse en musique.
Ils berceront ton cœur.
Voilà. Voilà.
Moi, je suis forcément battu sur un truc comme ça, parce que c'est un vrai problème. Ces trucs que j'ai entendus tout au long de mon
adolescence. Mais comment c'est possible
que
vous devez avoir une mémoire incroyable ?
Parce que, par exemple, Compromis, on l'a arrêté pendant 4 mois. Donc, je n'ai pas ouvert le thème. Je me suis dit, pas de problème.
Mais
8 jours avant Noël, je commence à regarder. Je ne savais plus rien. Donc,
vous
voilà,
avez une mémoire
donc,
à court terme extrêmement efficace.
Non, c'est dans le disque dur. C'est-à-dire que j'ai mis 24 heures pour reprendre le cirque. Donc là... Vous me faites écouter des trucs que je n'ai pas entendus depuis 25 ans. Et par conséquent, évidemment, je n'ai aucune chance de m'en sortir.
Bah vous avez un point déjà, Pierre.
Attention, c'est pour l'instant,
c'est bien le seul.
À égalité. Pierre Arditi, on part dans la maison hantée d'Eddie Mitchell.
Quand minuit sonne dans la maison hantée, un vieux piano se met à jouer pour de jolis fantômes féminins qui font d'étranges signes de la...
Oui, ça c'est facile.
De la
main.
Vous dites, ah, il y a peut-être un piège, écoutons.
Oh, d'étranges signes de la main.
Ah non, sacré Eddie. Eva Rock, c'était pas la plus dure hein, pour Pierre. Là. Ouais. Je sens qu'il y a une coalition contre Eva
oui,
Rock. Eva Rock, un moment romantique et humide avec Herbert Léonard, Mon cœur et ma maison.
Je t'ouvrirai mon cœur et ma maison. Tout ce que j'ai nous le...
J'ai même pas écouté en fait. Je t'ouvrirai ma maison
respect,
et mon cœur.
Un peu de respect pour Herbert.
Non mais pardon, oui. Je t'ouvrirai mon cœur et ma maison là et puis quoi après?
Tout ce que j'ai, nous le
partagerons.
Oui.
Ah le point, elle vient de vous voler un point, écoutons la réponse.
Tout ce que j'ai, nous le partagerons.
Ah bah je partage mon point avec...
Vous ne partagez rien du tout, vous n'avez rien dit. Le point est à Pierre Arditi. Dernière question qui vous départagera. Eva, Pierre Arditi, on ne va pas dans une maison mais dans le HLM de Renault.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est...
sais plus.
Je le sais.
Moi, je sais pas.
Mais vous ne jouez pas non plus. Vous
ne jouez pas.
Jean-Philippe Ballas.
Bronzé.
Surtout si c'est bronzé.
Mais vous ne jouez pas. Qui remporte le quiz? C'est évidemment Pierre Arditi, notre invité.
Et
oui, c'est toujours l'invité qui gagne. Vous pouvez, à mon sens, et vous devez même l'applaudir sur la scène du Théâtre des Nouveautés à Paris. Et pas de « Oh, c'est à Paris, c'est loin ». Non, parce qu'ensuite, il part en tournée avec Compromis. Une pièce de Philippe Claudel. Pierre Arditi est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, on peut mettre beaucoup de choses en vente sur Le Bon Coin. Pas plus tard qu'hier, dans les Alpes-Maritimes, une certaine Soca Brûlante vendait, je cite, un objet de plaisir ayant appartenu à une éminente journaliste d'Europe 1.
Le concombre d'âne.
Franchement, 50 euros le concombre, ça fait cher le kilo, surtout c'est plus de saison. Mais il y a encore plus incongru. En Auvergne-Rhône-Alpes, des joueurs de foot mettent en vente leur terrain sur Le Bon Coin. Jean-Luc Beaujon, notre correspondant à Lyon, vous raconte cette étonnante histoire juste après The Fame. Summer is the curse.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez L'équipée sauvage, deux heures où nos journalistes se plient en quatre au service de votre culture G, sauf Eva Rock qui est dispensée pour cause de scoliose.
Je suis au bout du rouleau.
Heureusement, le bonheur de nos campagnes permet à certains journalistes d'Europe 1 d'être un peu plus fringants qu'Eva. Bonjour Jean-Luc Beaujon.
Bonjour Mathieu.
Vous allez nous parler de footballeurs de la Loire qui en ont tellement marre de leur terrain de foot pourri qu'ils ont carrément mis en vente ce terrain de foot sur Le Bon Coin.
Ouais, et Mathieu, si vous avez 100 000 euros, il est à vous ce terrain. Je pense même que vu son état, vous pouvez avoir une petite ristourne parce qu'ils en peuvent tellement plus de ce terrain, les joueurs de Saint-Denis de Cabane près de Rouen. En fait, c'est un terrain en stabilisé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein,
oui.
Vous voyez beaucoup ça. Ouais,
j'ai beaucoup joué au foot dans ma jeunesse, Jean-Luc, vous savez. Je vois très bien ce que c'est qu'un stabilisé.
Hein. Et ben voilà, ils en peuvent plus de ce terrain en stabilisé, en terre et en sable. Et cette terre et ce sable, c'est tout le problème. Selon Yann Perrin, le trésorier du club, écoutez.
Chaque week-end, on subit les moqueries, voire les insultes même des certains adversaires. Quoi.
Ah bon, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils sont pas contents de venir chez nous, que c'est pas normal de jouer sur un terrain de merde. Ils viennent jamais avec le sourire. Quoi. Quand c'est sec, ça fait des nuages de poussière phénoménales. Et quand il pleut, c'est des flaques d'eau immenses, finies trempées.
Parfois ça ralentit le ballon.
Ah bah complètement oui. On n'a pas l'impression qu'on est sur un terrain de foot tellement que c'est incroyable.
Est-ce que parfois ça vous a sauvé le ballon, il n'est pas rentré?
Ah oui, ça carrément. Il y a des fois ça nous a souri, des fois ça sourit à l'adversaire. Ça nous a fait rigoler quoi sur le coup hein, bien sûr. Hein. Et au fur et à mesure quand même, avec le temps, avec les années, on en a marre. C'est pour ça qu'on a cette volonté de changer. Quoi.
Mais ça les fait plus rigoler. La petite annonce du Bon Coin est quand même assez drôle Jean-Luc. Hein.
Ouais, ils ont fait le choix de l'humour pour attirer l'attention sur eux. Hein. Ils ont conscience que c'est pas non plus la fin du monde, mais par exemple, l'annonce parle d'un terrain de 6000 m² où les enfants l'été pourront faire des châteaux de sable, ou l'hiver, si vous êtes apprenti pêcheur en eau peu profonde, vous pouvez attraper de la petite friture. Vous voyez, ils sont assez drôles.
Ah ouais.
Et cette carte de l'humour, c'est un peu pour alerter notamment la mairie de Saint-Denis de Cabane qui, depuis des années, leur dit on n'a pas l'argent pour refaire un terrain, ça coûte trop cher, on est une petite commune. C'est aussi le seul terrain en stabilisé de la région. Hein. Tous les autres villages aux alentours, ils ont soit de l'herbe, soit du synthétique, donc plus moderne. Donc, ils ont l'impression d'être un peu les parents pauvres. Donc, ils font un appel sur le mode plutôt marrant à tout le monde, hein, donc la mairie, mais aussi le département de la Loire, ou pourquoi pas la région, hein, coucou Laurent Wauquiez, hein, s'il nous écoute, ou tout autre mécène privé qui aurait de l'argent dont il ne saurait que faire. Vous avez peut-être des amis autour de vous, en Suisse, hein, pourquoi pas Mathieu, qui pourrait les aider.
En Suisse, non, mais grande nouvelle, puisqu'à l'instant, une généreuse donatrice privée, Eva R. de Paris, vient d'annoncer qu'elle mettait 10 euros pour ce terrain. Alors, c'est un début, mais il faut y croire.
Ça démarre petit. Hein.
Ouais, oui, je suis désolée.
Merci Jean-Luc Beaujon.
Merci Mathieu, à bientôt.
Il est à l'affiche de Compromis aux côtés de Michel Leb au Théâtre des Nouveautés à Paris jusqu'au 5 janvier prochain. Pierre Arditi est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe sauvage, réveillez-vous Pierre, réveillez-vous, bientôt vous jouez, bientôt les trois coups.
Ah oui, il faut se mailler les 20h28.
Deux heures pour booster votre culture G, sans pour autant vous filer une méningite, ça va, il va pas trop mal à la tête?
J'ai pas encore eu le temps là d'avoir mal à la tête parce que je suis encore ivre.
Parfait, le timing est bon, chaque après-midi, les meilleurs sur des listes d'Europe 1 défilent au micro pour vous offrir le sujet le plus palpitant, un seul gagnant, votre savoir, et ça tombe bien, notre invité Pierre Arditi adore ça, il le dit sans tabou, le savoir.
J'ai envie de m'enfourrer.
Oui, calmons-nous, à suivre. Nous mettons le cap sur Doha, où se tiennent les mondiaux d'athlétisme pour tenter de comprendre la plus dure des épreuves, le décathlon, et puis nous filerons au Mexique. avec un budget son toujours aussi important pour découvrir que les Mexicains sont les plus gros consommateurs de musique au monde. A tout de suite, ou plutôt, à tous les suites, compañeros.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, par l'entremise d'une compétition plus sanglante que Kill Bill 2. En guise de sabre, ils n'ont que des stylos bic, restrictions budgétaires oblige, mais les journalistes d'Europe 1 n'en sont pas moins redoutables. Ils s'affrontent à coups de chronique sous l'œil de notre invité d'honneur qui n'en revient pas d'un tel déploiement de courage.
C'est un métier impossible, car on est sans arrêt confronté à la vindicte populaire. Mais qui supporterait de vivre avec une pression pareille ?
Mais eux, Pierre Arditi, eux, les journalistes d'Europe 1, notaient que le jeu en vaut la chandelle, une très belle couronne. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Deux nouveaux concurrents arrivent. On évoquera les secrets d'une épreuve très très dure, le décathlon. Pierre Arditi, actuellement à l'affiche de compromis au Théâtre des Nouveautés. Vous restez avec nous. Vous allez voir, l'équipe est sauvage, c'est une émission qui vous marque. D'une manière indélébile, comme nous le confiait notre invité d'hier, Plantu.
J'ai beau nettoyer avec mon doigt, ça part pas.
Europe 1. 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Pierre Arditi. 2 heures d'infotainment exigeant, emmené par un professionnel épatant, moi. Le problème, comme toujours, Pierre, c'est le petit personnel. Des techniciens qui ont du mal à suivre le rythme et appliquer mes consignes, pourtant toujours parfaitement claires.
Ok, ça marche. Je te dis. Attends. Ah non. Bah si, clac, là, on a de la musique. Et moi. Mais oui. Non, la série des arrêtés municipaux. Pourquoi je dis. Ben oui. Ben non. Il faut que j'engueule la régie. Ils ne comprennent pas ce que je dis.
Je vous rassure. On n'est pas aidé, Pierre, hein, vraiment. Heureusement, pour me changer les idées, il me reste ce spectacle encore plus divertissant que les combats de coq thaïlandais, les combats de journalistes. J'adore ça. Voici justement deux nouveaux concurrents. À ma gauche, il est l'expert sport d'Europe 1, garçon charmant, avec qui j'entretiens un peu la même relation que vous avec Michel Leb dans la pièce. On est tout le temps d'accord, sauf quand on l'est pas. Et là, comme on est de mauvaise foi tous les deux, ça peut durer longtemps.
Bah c'est impossible, il parle pas avec...
Bah si, pourquoi il parlerait pas ?
C'est bizarre.
Justement, il dit qu'il parle pas.
Bah oui, c'est bizarre, non ?
Ah oui, bah ça après, c'est ce qu'il dit.
Bah c'est impossible, il parle pas avec...
Bah si, pourquoi il parlerait pas ?
C'est bizarre.
Justement, oui. Il dit qu'il parle pas.
Oui, bah oui c'est bizarre, bon, bonjour ah, oui. Jérôme Lacroix. Parfois, j'avais... on n'est pas d'accord. Hein.
J'avais raison, au final.
Jérôme, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ?
Si je vous dis les dieux du stade, vous pensez à quoi ?
À calendrier de rugby.
Ben voilà, j'en étais sûr. Pas du tout, rien
c'est
à
pas
voir.
Du tout ça ? Non, c'est moins sexy ?
Je vous parle de l'épreuve... Non, pas forcément, vous allez l'entendre. Je vous parle de l'épreuve la plus dure de tout l'athlétisme, peut-être l'une des épreuves les plus dures du sport. Le décathlon.
À ses côtés, Pierre Arditi, elle est indéniablement l'atout jeunesse d'Europe 1. Quand elle a vu ses tatouages, Catherine Ney a failli s'évanouir sur Gérard Carrérou. Blogueuse musique, Angèle Châtelier est aussi une compétitrice hors pair prête à tous les coups pour l'emporter. GG, vous avez bien mis votre coquille de protection ?
J'ai oublié d'en mettre.
Ah bah bonne chance, mon vieux. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous nous révélez une enquête sur les pays qui consomment le plus de musique.
Oui, et du coup, on va s'envoler au Mexique, mais on va écouter du rock quand même.
Ah oui, mais du rock mexicain ?
Bah oui.
Oh mon dieu. Quel.
Allez, c'est chouette.
Ça, suis... Quel acteur.
Ça, je suis curieux d'entendre ça. Alors là, je connais pas ça, c'est une découverte. Là, oui.
Quel sujet notre invité préférera-t-il ? On peut compter sur Pierre Arditi pour ne pas pinailler au moment du vote. Hein, vous trancherez dans le vif sans scrupule. Quitte à saboter la carrière naissante d'une jeune journaliste, hein, vous êtes comme ça. Justement, comment est vraiment Pierre Arditi ? Qui est-il pour vous ? C'est la question qu'on est allé poser aux gens. Ce n'est pas un micro-trottoir, toujours honteusement monté pour flatter l'ego de l'invité, mais notre micro-trottrash. Comme un micro-trottoir, mais pas monté. On a tout laissé en vrac.
Bah bien sûr, je connais Pierre Arditi.
Ouais, bel homme, beaucoup de charisme et puis un passionné.
Je l'ai vu 3 fois au théâtre, il fait du Guitry notamment, il a fait des pièces contemporaines, moi j'adore.
Le côté très masculin aussi qu'il a, je sais pas, peut-être une force quelque part aussi.
Arditi sur scène, c'est une voix, c'est une prestance.
Pierre Arditi, c'est pas un...
Dans les séries, non. C'est un acteur.
Non, c'est pas un acteur. Vous savez par exemple, chez Thierry Ardisson, il y a des invités. Et bah lui il fait partie des invités.
Tu confonds avec Laurent Baffy toi.
Non mais non, Laurent Baffy c'est un acteur.
Moi je trouve qu'il a beaucoup d'humour, il est fin, il a une très bonne diction. Non, c'est un excellent acteur. Hein.
Donc un homme engagé, un homme profond et c'est vrai que c'est agréable.
Vous avez clairement une ouverture avec madame.
Pierre Arditi. Il n'a jamais été aussi gentil ce micro-trottrash.
Bah, c'est ce que les gens disent, hein. Oui. On montre rien du tout, hein. J'en sais rien, on n'a pas trouvé de gens qui n'aimaient pas Pierre Arditi. C'est déjà ça.
Il y a quand même des gens qui pensent que l'essentiel de ma carrière se fait comme invité de Thierry Ardisson. Bon, alors, quand même, c'est pas inintéressant.
J'allais vous poser une question sur le cinéma. Je trouve personnellement qu'on ne vous voit pas assez au cinéma.
Oui.
Vous dites, cette citation peut expliquer ça, vous dites sur le théâtre, je mourrai au théâtre, le théâtre c'est ma maison, quand j'entre en scène, j'entre chez moi. Vous avez quand même une préférence pour la scène.
Pas une préférence, j'y suis né, je vais y mourir au théâtre. Hein, voilà. Bon, ma vie a commencé avec le théâtre. Voilà. Après, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup plus de théâtre que de cinéma. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai deux Césars et pas de Molière. Mais ça n'a pas d'importance. Non, je veux dire que... je tourne encore. Moi, vous savez, c'est un métier qui est à la fois admirable et très terrible. C'est qu'à un moment donné, plus on avance dans le temps, c'est-à-dire plus on vieillit, et puis les emplois sont moins, moins nombreux quand on avance.
Vous voulez dire que vous ne recevez pas de scénario très intéressant ?
Si, j'en reçois. Voilà, enfin, je tournais plus à l'époque Rennais, ou, c'est, ou Lelouch, ou Claude Berry, tous ces gens-là.
Mais Nicolas Bedos aujourd'hui,
oui,
vous
serez la fille de
Nicolas.
Génération,
alors Nicolas, ouais. J'ai la chance que Nicolas me fasse appel à moi, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup de talent. Mais vraiment, le prochain film,
La Belle Époque,
est un film absolument, absolument formidable. Voilà, absolument. Oui, oui.
En parlant de promotion, le 10 octobre sortira aussi votre livre « Les goûts de ma vie » qui paraît chez Hugo. Hugo et Documents, en fait. Hein, c'est Hugo et compagnie, la maison d'édition.
Oui.
C'est dans la collection
le,
Hugo
j'aurais
et
pu
documents.
Mettre « Les goûts de ma vie », d'ailleurs, vous avez raison.
Vous êtes très, très beau sur la couverture de ce livre.
Oui, c'est extrêmement beau. D'ailleurs, je vais m'arracher un œil, comme ça, je serai beaucoup moins bien.
Ah oui, j'ai dit les goûts, pardon, c'est le goût.
Oui, non, mais c'est pas, c'est bête, j'aurais dû mettre ça. Ah ouais. Le goût du vin,
du d'amour,
tout ça, voilà.
Mais on va en parler.
Oui, oh, si vous voulez. Sinon, on peut parler d'Einstein ou de...
Ah, ça, on peut aussi.
Ah oui, on peut.
Mais il faudrait d'autres chroniqueurs. Il est à l'affiche d'une...
Oh, c'est moche,
oh non, je vous aime tous.
C'est vraiment sympa.
Il est à l'affiche de Compromis au Théâtre des Nouveautés. Pierre Hardité est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Angèle Châtelier et Jérôme Lacroix sont à mes côtés. Pierre Arditi, tout va bien Pierre ? Besoin de rien ?
Que tu me prennes la main !
Oui, et si on faisait plutôt un peu de sport, Pierre, ça nous ferait du bien, surtout à vous. Direction les Mondiaux de Doha où il fait très chaud, mais alors vraiment très chaud, ce qui rend la discipline la plus dure au monde encore plus difficile. Quelle est cette discipline ? Jérôme Lacroix va vous le dire, à tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue, quatre journalistes l'écume aux lèvres qui se déchirent au service de votre culture G. Un seul raflera le titre de chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité arbitre. Aujourd'hui, c'est le phénoménal Pierre Arditi qui nous accompagne. Il était l'affiche de Compromis avec Michel Leb au Théâtre des Nouveautés à Paris. On continue d'en parler, mais vous le savez, la compétition continue. Une compétition qui monte à la tête de nos journalistes, mais aussi de nos invités, Pierre. Comme Gérard Darmon, mardi. Gérard qui a mal compris la règle de l'émission, il a cru qu'il était en compète avec moi. Du coup, il m'a rien laissé passer. Vous avez, vous, un rapport particulier au temps. Vous êtes né un 29 février. Oui. Et donc, par conséquent, vous n'avez pas encore tout à fait 18 ans.
J'avais vraiment l'impression de ne pas avoir de jour anniversaire.
Alors, vous ne fêtez pas votre anniversaire le 28 ?
Vous êtes né quel jour ?
Le 13 novembre.
C'est pas on vous le faites le 12 ?
Sacré Gérard ! Un très bon moment. Pourtant, la vraie compétition est entre nos journalistes. Voici Jérôme Lacroix, notre expert sport. Et moi qui suis très fort en ping-pong, vous nous révélez aujourd'hui qu'il existe un sport encore plus dur physiquement. C'est le décathlon. Et vous nous parlez de cette épreuve qui se tient aujourd'hui au Mondiaux d'athlétisme de Doha.
Oui, et d'abord, je voulais vous faire entendre ceci. La liesse de milliers de personnes au stade de Talence en Gironde. On est le 16 septembre 2018. Alors, c'est pas Neymar ni Mbappé, c'est pas du foot qui les rend dingues, ces spectateurs. C'est du décathlon ce jour-là. Ils écarquillent les yeux devant Kevin Mayer, français, 26 ans. Alors, il vient de battre le record du monde de cette discipline, qui n'est pas la plus grand public, elle n'a pas l'intensité d'une finale de 100 mètres. Mais ceux qui la pratiquent aujourd'hui sont les porteurs d'un héritage multiséculaire. Alors déjà, de quoi parle-t-on ? Déca, 10, en grec, athlos, compétition ou épreuve, 10 travaux donc à accomplir dans le décathlon d'aujourd'hui. Est-ce que vous les connaissez, ces 10 épreuves ? Alors, pas facile.
Même non, il doit y avoir un 100 mètres.
Alors oui, 100 mètres.
Oui,
le poids.
Le poids,
100 mètres, le poids, la longueur, la hauteur, le 1500 mètres.
Très bien, très
la
bien.
Perche. 500
mètres, la perche.
Le 1500 mètres, la perche.
Et le javelot.
Le javelot.
Oui, les javelots.
Alors, on a un disque au bol.
Eh ben, je crois qu'on a tout dans le désordre. Je resitue un peu
non,
tout
500,
ça.
On a dit le 1500 mètres.
Oui, oui, c'est Pierre Arditi qui l'a dit.
4 courses, 100 mètres, 400 mètres, 110 mètres haies,
ouais, 400,
plus 1500 mètres. 3 sauts, soit en hauteur, soit en longueur, soit à la perche. 3 lancers, lancers de poids, lancers de javelot, lancers de disque. C'est donc titanesque, je ne sais pas comment, quel mot employer, des épreuves en compétition officielle. Je vous l'apprends peut-être. Elles sont toujours concourues dans le même ordre. 5 le premier jour. 100 mètres, longueur, poids, hauteur, 400 mètres.
Ah, mais je pensais que c'était une par jour, moi.
Non, 5 le second jour, c'est sur 2 jours, 110 mètres haies, disque, perche, javelot, 1500 mètres. Des épreuves qui, pour la plupart, étaient déjà là lors des Jeux Olympiques antiques.
Oui, vous nous parliez d'héritage tout à l'heure, on parle donc d'un héritage grec.
Le premier décathlon, Olympie, 8 siècles avant Jésus-Christ, lors des Jeux antiques. Alors, seuls les Grecs, les purs, les hommes militaires pouvaient y prendre part au passage. Héritage malheureux, pas de décathlon aujourd'hui pour les femmes dans les grandes compétitions. Elles disputent entre guillemets seulement les
heptathlon. Ouais.
Très bien.
Et donc, Pierre Dittier, vous m'avez l'air sacrément calé en sport.
Oui, j'aime bien ça.
Ouais.
Oui, j'aime bien ça. Je ne pratique pas beaucoup, mais je pratique énormément la télévision.
En Grèce antique, les épreuves sportives sont sacrées. On court, on saute, on lance pour honorer les dieux. Alors on trouve les origines du décathlon dans la mythologie. Certaines histoires mettent en scène le héros Jason et ses argonautes, tous un peu une bande de super-héros. Hein. C'était eux qui y prenaient part à l'initiative d'une reine nommée Hypsipyle, peut-être en échange de somptueux cadeaux. La mythologie a des incertitudes. Pas étonnant en tout cas que le décathlon du coup soit l'une des plus anciennes épreuves au programme des JO modernes. Ça y est, depuis 1912 dans sa forme actuelle.
Un mot de la mécanique du décathlon aujourd'hui. Chaque épreuve rapporte des points, c'est comme ça que ça
Alors,
fonctionne.
L'outil pour le calculer, ça s'appelle une table de cotation. C'est très très précis et sophistiqué. Par exemple, si vous courez le 100 mètres en 11 secondes 24 centièmes, ça vous rapporte 808 points. Si vous lancez le poids à 13,80 m, c'est 716 points. C'est vraiment très précis, etc., etc. Les sommes des épreuves s'ajoutent. Kevin Mayer, dont
j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué que le système de points de l'équipée sauvage. Et Dieu sait qu'on n'y comprend rien et qu'un jour sur deux, on n'arrive pas à compter les points.
Kevin Mayer, dont je vous parlais au début, il a glané en 2018 9126 points. C'est le record du monde. Le décathlon aujourd'hui, c'est lui, Kevin Mayer, qui en est l'incarnation mondiale. Super beau gosse, il est blond, les yeux bleus, etc. Il raconte, on me demande souvent si je suis pas surfeur, il aime bien présenter avec ça. Il aime faire résonner les Marseillaises, et il aime bien faire résonner ça aussi. Ah oui, il est agaçant, voilà. Il a tout, Kevin Mayer. Voilà, il sait aussi jouer du piano.
Ah, c'est lui qui joue
ce morceau, Rivers Flows in You, qui fait partie de la BO du film Twilight. Il est agaçant.
Mais il m'agace, moi, il m'agace.
C'est lui qui joue,
oui.
Non.
Il joue ça, oui, oui.
Merci bien. Jérôme Lacroix, et ma foi, prenez soin de vous, vous m'avez l'air fatigué, pas vrai, Eva?
C'est moi qui t'ai dit qu'il était dans un sale état.
Oui, bref, voilà, son sujet aura-t-il super donné envie à Pierre Arditi d'abandonner le théâtre pour se lancer dans le décathlon, surprenant son agent, son banquier et sa femme?
Mais il est con ce mec!
Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, vous aimez le rock, mais vous aimez aussi les Mexicains. Découvrez vite le rock mexicain.
Vida facile, vida libre.
Mettez-vous dans l'ambiance, enlevez-le!
Un pantalon, enfin, comment comme ça?
Mais non, pas votre pantalon, votre duffelcoat, enfin! Sacré Pierre! La folie du rock mexicain, ça serait juste après Lily Allen et Ours, 22 sur Europe 1.
Hey Lily! L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission aussi enrichissante intellectuellement qu'un colloque au Collège de France, mais aussi drôle qu'un dîner de cons. Hier, j'avais invité Eva Rock et Nicolas Carreau. On a passé une délicieuse soirée.
Comment faire 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes?
À partir de 3, il faut en faire un.
Non, à partir de 6.
À partir de 6, il faut en faire.
Il faut en faire 4.
Ah voilà, c'est ça, 6 allumettes.
Attends, non, je
vois. Les 3 triangles équilatéraux.
Ouais, c'est plus facile si t'as des stylos.
Ouais, c'est plus facile avec des stylos.
C'était Bernard Werber.
Pendant que mes prix Nobel jouent avec leurs allumettes, la compétition continue. Qui sera élu chroniqueur du jour? C'est la dernière ligne droite. Angèle Châtelier, notre dernière compétitrice, se concentre. Elle se prépare. Angèle, tout va bien?
Je me déshabille, pardonnez-moi.
Oui, préparez-vous. Chacun ses méthodes. Et c'est peut-être la bonne méthode avec notre invité du jour, Pierre Arditi. Actuellement à l'affiche de Compromis au Théâtre des Nouveautés et bientôt au cinéma dans le nouveau film de Nicolas Bedos. On en parlait tout à l'heure, Eva. La belle époque, ça c'est une belle rencontre, hein, Pierre. Celle de Nicolas Bedos.
J'adore. J'ai bien connu son père. Je connais bien son père. Je l'aime beaucoup. J'adore. Il est très... On ne connaît pas bien Nicolas Bedos. C'est un homme très sensible, très fin, très intelligent, brillant, même brillantissime. C'est un vrai auteur, c'est un vrai metteur en scène. Et c'est une personnalité qui me touche beaucoup parce qu'il est beaucoup plus secret, beaucoup plus mystérieux qu'on le croit. Et il masque ça derrière une espèce de causticité ou d'acidité, comme ça, qui est très à la mode. Il le fait très bien d'ailleurs, mais en réalité, c'est quelqu'un de beaucoup plus attachant que ça et beaucoup plus fragile.
Et on l'avait vu à travers son premier film, Monsieur et Madame Adelman.
Oui, formidable. Ouais.
Effectivement, très beau premier film. Pierre, est-ce que quand vous n'êtes pas dedans, vous êtes souvent devant la télé?
Alors, je suis devant la télé, mais comme vous le savez sans doute, je dors très peu dans ma vie. Et donc, la télé marche toute la nuit. Et alors, je la regarde ou je ne la regarde pas. Ça dépend.
Mais elle tourne.
Mais elle tourne et ça me... Bien, c'est quand quelque chose m'intéresse, tout d'un coup, je me réveille. Ça peut être un débat, une émission politique, un truc comme ça. Ou le sport, en ce moment, je regarde Doha, évidemment, parce que j'aime bien ça. Voilà.
Face à vous, Pierre, une tarée de séries. Eva Rock est notre expert média. Elle connaît absolument toutes les séries. La preuve, Eva, pitchez-nous la dernière que vous avez vue.
Il y a un mec qui s'est... Il y a un restaurateur qui a... Ouais. Bon, je vous raconte après.
Bon, comme ça, je vous l'accorde, c'est pas criant, mais je vous assure, elle est spécialiste média. Selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix, rien que pour se décider et choisir une série, un film ou un documentaire. Heureusement, il y a maintenant 17 minutes de gagner. grâce à vous, Eva Rock. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?
Eh bien, écoutez, j'ai cru comprendre que Pierre Arditi aimait le foot. Je vous emmène dans les vestiaires de l'équipe de France. Finale de la Coupe du Monde contre la Croatie en juillet 2018. Les Français mènent 2-1. Alors, tendez bien l'oreille, il y a un joueur qui parle un peu plus fort que les autres.
Et là, on se prend la tête, l'action, le placement, le truc, les gars, c'est dans la tête. Si on est positif, on y croit, ça va, on va gagner, les gars. On va gagner ce match.
Allez, gars, allez, 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 allez.
Alors cette voix, c'est celle de Raphaël Varane, le défenseur de l'équipe de France, joueur exceptionnel du Real de Madrid et qui est le sujet d'un documentaire à voir sur Amazon Prime Video qui est signé Théo Schuster. Théo Schuster qui avait pu suivre l'athlète depuis plusieurs longues semaines après un premier film, Les Bleus 2018 au cœur de l'épopée russe qui avait déjà été diffusé sur TF1. Varane, vous allez le découvrir, c'est un garçon... Eh bien, normal. Il est bien dans sa tête, il est bien dans ses crampons, il est très entouré par sa famille, les parents, son frère, sa femme. Il est très aimé par tous les gens qui l'ont croisé depuis une vingtaine d'années. Les premiers entraîneurs du côté de Lyon, puis à Lens, mais aussi les joueurs stars qu'il côtoie, notamment ceux du Real. Et puis Zidane, évidemment. Zidane et Varane, écoutez, même longueur d'onde.
Je reçois un coup de téléphone, un numéro masqué, je décroche. J'écoute à moitié parce que je suis en train de faire des affaires, tout ça, j'écoute pas vraiment. Et petit à petit, je commence à tendre l'oreille parce que j'ai l'impression de connaître cette voix. Je tends l'oreille et en fait, ouais, je connais cette voix. Et je me dis, c'est Zizou.
Ah oui, c'est pas une légende. C'est exactement comme ça que ça s'est passé.
Alors, la qualité des témoignages, les archives et puis le long entretien avec Raphaël Varane sont vraiment les atouts de ce documentaire. À 26 ans, il est champion du monde, plusieurs fois vainqueur de la Ligue des Champions. Il lui reste à remporter l'Euro puisqu'il avait été blessé à l'Euro précédent. Donc rendez-vous l'an prochain, c'est dans 12 villes européennes, le prochain Euro de foot. Et oui, c'est une version anniversaire, donc une version un peu spéciale. On aura les matchs dans 12 villes de différents pays en Europe. Voilà.
De différents pays.
Exactement.
C'est pas mal.
Ouais. Pierre Arditi, le foot, c'est une nouvelle passion.
Écoutez, j'aime bien le foot. Oui, j'aime bien le foot. Je ne peux pas dire que je n'aime pas le foot. Je ne suis pas emballé. Je ne suis pas emballé par un certain nombre de. Comment on peut appeler ça? De dérives, de choses comme ça qui m'emballent moins que ça n'a pu, que ça a pu m'emballer. Voilà, c'est comme ça. Je suis plus branchouillé rugby maintenant. Moi, j'attends avec impatience le rock mexicain parce que
je voudrais comprendre. Vous bouillonnez d'impatience.
Je voudrais comprendre. Ah oui, j'avais pas vu ces petits tatouages.
Oui, oui, oui.
Calmez-vous, Pierre. Calmez-vous.
Ôtez-moi d'un doute. Ça s'en va quand même.
Bah non, malheureusement.
Mais ça ne sont pas des décalcomanies.
Mais c'est une dinde.
Mais
une dinde.
Ah,
mais qu'est-ce que vous allez foutre tout ça dans 30 ans?
On verra.
Merci Eva, c'était 17 minutes de gagner.
Europe 1.
À suivre, oser, oui, se présenter devant Pierre Arditi en espérant le captiver avec une chronique sur le rock mexicain. C'est sûr, Angèle Châtelier ne manque pas d'audace ou d'inconscience, mais allez Angèle, je suis sûr que ça va bien se passer.
Tu crois ?
Non, mais perdu pour perdu, il faut mieux mettre la tête en confiance. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, la preuve d'un goût certain, l'équipée sauvage continue et le suspense devient étouffant. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Nos journalistes sont tendus de partout. Eva Rock, qu'est-ce que vous faites, Eva Rock ?
J'ai un mini doute. Je vérifie.
Mais non, mais redressez-vous devant Pierre Arditi en plus.
Moi, je te préfère comme ça. Ça, c'est vraiment toi.
Ah ouais, bah ça, c'est vraiment elle. Oui, mais ne l'encouragez pas non plus, Pierre. Encouragez plutôt, elle va en avoir besoin. Notre dernière compétitrice du jour, elle est toujours en période d'essai, en plus, c'est vrai. Certains la décrivent comme instable psychologiquement. J'ai décidé de ne pas les écouter, de lui donner sa chance. Tout va bien, Angèle ?
Je déteste être bipolaire, c'est génial.
Super, super. Et deuxième preuve que vous êtes parfaitement saine d'esprit, vous nous parlez aujourd'hui du rock mexicain.
Bah ouais, on va partir au Mexique.
Mexico. Merci.
Bon, c'est pas du tout cliché, hein.
J'ai
fait
les auditeurs peut-être rien. Oui, alors là, vous, c'est aujourd'hui.
Une deuxième fois, ceux qui étaient encore vivants.
Les Mexicains sont de grands, voire les plus grands auditeurs de musique. C'est le résultat d'une étude de la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Les Mexicains écoutent en moyenne 25 heures de musique par semaine et surtout
mais
du rock.
Pas
il travaille en musique. Il faut dire que le genre du rock a une sacrée histoire dans le pays. C'est une histoire qui est née dans les années 60 et 70 avec l'un des groupes majeurs de ces décennies, la Revolución de Emiliano Zapata.
Ça n'a jamais traversé l'Atlantique.
C'est du rock
un peu folk.
Du rock des années 60.
C'est pas du métal, quoi.
C'est pas du hard rock métal. Alors à cette époque, le pays connaît un véritable Woodstock aussi. C'est le festival rock Il Huedas à Avendaro. Nous sommes les 11 et 12 septembre 1971. 300 000 personnes se déplacent et parmi les groupes présents, il y a celui-ci, Los Dog Dogs.
ressemble à du rock, oui.
Ouais. Exactement. Mais peu à peu, le rock devient persona non grata dans le pays. On dénonce sa violence, ses contestations, ses artistes. De nombreux concerts sont annulés. Mais bien heureusement, ça n'a pas arrêté la création musicale locale. Et les groupes de rock au Mexique et les bons sont aujourd'hui nombreux, comme celui-ci, Mana.
Ça, c'est Manu Chao.
Tout ce qui est espagnol.
Hein, croisé avec la bamba.
Ah, la bamba. La bamba. Toute une époque aussi. Vous vous souvenez de nos premières booms?
Alors, du rock en espagnol, notre oreille n'y est pas forcément habituée, mais certains ont marqué l'histoire du genre. Et oui, c'est le cas aussi de Caifanes, qui n'est pas sans rappeler les saveurs et couleurs du groupe U2.
U2 avec Étienne Dao. Très années 80, ça.
C'est vrai.
Ouais, j'aime bien. C'est barré. Ça me plaît.
Mais dans la musique mexicaine, il y a aussi évidemment José, le Johnny Hallyday du Mexique.
José.
Célèbre crooner, artiste aux 100 millions de vues, qui est au cœur de l'actualité, puisque sa mort a été annoncée samedi dernier et jusque-là, on n'avait aucune trace de sa dépouille. C'est une sombre histoire d'héritage familial. On soupçonne que ce soit sa fille qui ait volé le corps. Alors, il a été retrouvé cette nuit dans un funérarium à Miami. Je vous assure que plus d'informations sont à venir par tous les grands reporters de la rédaction.
Mais comme quoi, c'est normal que ça marche là-bas, parce que le Mexicain est rock à la base. Oui. Quand on voit les histoires de Rosé, on voit que c'est dans leur gène, finalement, le rock'n'roll. Cette transgression. Pierre Arditi, le rock mexicain. Est-ce qu'en rentrant chez vous, vous allez tout de suite télécharger?
Non,
ça m'emballe pas les masses. Ça rappelle un peu la musique du Club Med pour les gentils, machin. Non, moi, je suis un pur et dur, vous savez.
C'est quoi?
Moi, le rock, bah, c'est Elvis Presley, c'est...
One for the money.
Bah, oui, je suis désolé. C'est Bill Haley, c'est Gene Vincent, c'est voilà, c'est Eddie Mitchell, c'est Johnny Hallyday, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Après, ça devient c'est la musique à l'eau de rose. Ça, c'est José, on l'a même pas entendu d'ailleurs. José,
c'est vrai, mais on pourra le mettre.
Voilà, oui,
une autre fois.
Ça va, non, mais ça va. C'est pas grave, je vous aime bien quand même. Mais enfin, franchement, je passerai pas une soirée avec ça. Avec vous, sans doute, mais pas avec
vous. Calmons-nous. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Jérôme Lacroix, escuchavos. Je sais pas comment on dit. Bref, on vous écoute.
Escuchavos. Mais c'est effrayant. Il y a encore des gens qui écoutent. Alors, fini, ils sont partis. Ils sont allés dormir.
No sé,
señor. Le lama toujours faire ça. Oui, d'accord.
Oh, si on commence à citer Hergé, on monte en gamme. Vous avez une question vache, Jérôme?
Non, je n'ai aucune question vache.
Voilà.
Votre chronique aura-t-elle bousculé Angèle, notre invitée dans ses certitudes artistiques? Pierre Arditi est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, vous êtes nostalgique de Sacrée Soirée? Découvrez Sacré Après-Midi. Dans quelques instants, pour évoquer leur passion commune pour le vin, nous accueillerons un ami de Pierre Arditi, celui qui chaque jour vous sauve la mise avec une recette de dernière minute. J'ai nommé Olivier Pouls, l'homme au double foie. Cadeau anatomique qui fait lui le premier alambic humain. Alors vous me direz, ils vont quand même pas s'ouvrir un morceau à 6h moins le quart? Ça serait mal les connaître. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures dans le combat sans merci et sans coquille de protection entre les plus féroces journalistes de la rédaction. Il défile. Oui, j'ai encore du graton dans la bouche, me signale Pierre Arditi. C'est vrai que Olivier Pouls qui arrive nous a apporté du graton lyonnais.
Oui.
Et c'est quelque chose.
C'est léger pour
ça
le choix.
Ça colle à la dent, comme on dit. Il défile au micro pour booster votre culture. J'ai mis un seul, sera élu chroniqueur du jour, sous l'œil d'un arbitre impartial mais ferme.
J'ai un mini doute, hein. Je vais vérifier.
Non, Eva, non. Il est actuellement à l'affiche de Compromis au Théâtre des Nouveautés. C'est un de nos plus grands comédiens. En 50 ans de carrière, il a dit des choses très profondes, d'autres plus borderline.
Je continue de me toucher du doigt. C'est une sensation absolument délicieuse et très fatigante.
Pierre Arditi passe l'après-midi sur Europe 1. Vous l'avez dit, Pierre, et je ne sais même pas comment vous avez pu le dire.
C'est horrible. Mais comment est-ce qu'il a été chercher une connerie pareille?
Pierre, vous avez deux passions. Le théâtre et le vin. Molière et Olivier Pouls. Faites entrer Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre Arditi.
Comment ça va,
Olivier?
Va bien.
Bon. J'ai apporté des gratons.
Oui, j'ai vu, mais je n'y touche pas. Voilà, ça tu peux te les... Ah ben, voilà.
Non, je te le dis. À l'heure du goûter, c'est quand même franchement mieux qu'un
pitch. Oui, enfin, là, il est 23h50, donc quand même, ça fait... Non, ça va rester sur l'estomac, il n'en est pas question une seconde.
Pierre Arditi, vous avez joué dans une série qui s'intitule Le sang de la vigne, et c'est pas un hasard, le vin, c'est vraiment une des passions de votre vie.
Oui, tardive d'ailleurs, parce que... Enfin, non, tardive, non, 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 oui, j'aime le vin, oui, j'aime ça.
Comment vous avez découvert comment on devient passionné de vin un jour?
Je ne sais pas comment on devient passionné de vin. Ça ne vient pas de mes parents qui, eux, buvaient du vinaigre. Quand j'en ai bu un tout petit peu, je me suis dit, si c'est ça le vin, j'en boirai jamais, parce que c'est épouvantable. Et puis, j'ai fait mes débuts d'acteur à Lyon, et là, évidemment, on m'a fait goûter des choses très simples, d'ailleurs. De très bons Beaujolais, des pots de Côte, du Rhône, des pots de Beaujolais, très simplement faits, mais délicieux, ce qu'on appelle des vins de soif, et j'ai commencé à adorer ça. Voilà.
Vous après, n'avez pas que des vins de soif dans votre cave, paraît-il, d'après les indiscrétions que j'ai pu avoir.
C'est toujours du vin de soif, mais quelquefois, évidemment, c'est un petit peu autre chose, bien sûr, mais c'est normal.
Olivier Pouls, vrai connaisseur, Pierre Arditi?
Oui, et je peux en témoigner. On a quelquefois échangé ensemble autour de bonnes bouteilles. Il connaît très bien le vin, il connaît très bien les vignerons et il aime les vignerons. Et je pense que ça, c'est très important de la part d'un amateur de vin, c'est de comprendre d'où ça vient.
Mais oui, je les aime bien parce que je les admire.
On me crie dans la régie de dire « rappel, avec modération, avec modération ». Vous n'aimez pas le mot modération, vous avez un autre mot, oui, vous préférez raison. Avec raison.
Oui, raison. Oui, parce que la modération, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas un homme modéré. Ce n'est pas intéressant de vivre avec modération. Par contre, la raison, ça c'est autre chose, c'est-à-dire là, c'est-à-dire que j'aime le vin passionnément, mais le vin est un ami, il peut devenir un ennemi. Je suis contre l'addiction à l'alcool, bien entendu, mais je crois à la culture de l'initiation. Et donc, à un moment donné, pour en avoir fait moi-même l'expérience, d'une manière assez marrante d'ailleurs, quand je suis venu jouer à Saint-Étienne, Don Juan, il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune et pas vilain, j'avais fait une dégustation chez mes amis Guigal de côte rôtie. Je m'étais dit quand même ça, je peux pas cracher. Je suis arrivé, j'étais ivre mort, et j'ai joué donc Don Juan en bulgare, au grand étonnement du public nombreux qui était dans la salle et qui n'a pas bien compris pourquoi subitement je parlais une langue étrangère. Bon, voilà. Donc si vous voulez, à un moment donné, je ne laisse pas au vin le droit de prendre ma place.
Il sera ce soir et sobre au Théâtre des Nouveautés à Paris dans Compromis aux côtés de Michel Leeb. Ça c'est jusqu'au 5 janvier, puis en tournée près de chez vous en 2020. Pierre Arditi est avec nous jusqu'à 18h. Europe 1. La fausse modestie étant un défaut que je ne supporte pas, je pose ouvertement la question, chers auditeurs, que feriez-vous sans moi? Eh bien, je vais vous le dire, vous rentreriez chez vous en riant bêtement à nos pitreries, en oubliant une fois de plus de faire les courses pour le dîner de ce soir. Votre épouse ne vous le pardonnerait pas, et vous le savez.
Joyeux Noël, Philippe !
Heureusement, on est là, et surtout, Olivier Pouls est là, avec Délices in Extremis, votre recette de dernière minute. Que feriez-vous sans lui?
Des frites!
Quel manque d'imagination, alors que Pouls, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui?
Des frites.
Bon, okay, super, ça c'est original.
Juste
en face
du tas de beauté. Impeccable, formidable. Oui.
Vous nous donnez la recette juste après Birds, Imagine Dragons sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures au service de vos zygomatiques, de vos délicates cervelles et de vos capricieux estomacs, puisque chaque jour, vers 6h moins le quart, notre expert en gastronomie de crise, Olivier Pouls, vole au secours des étourdis qui ont oublié de faire les courses. Voici Délices in Extremis, les retrouvailles d'Olivier Pouls et Pierre Arditi. Une amitié qui a failli mal tourner cet été quand Pierre a proposé un glaçon à Olivier.
Ah, pas de glaçon, non, malheureux, non, ah non, pas de glaçon dans le rosé.
Que de souvenirs, hein. Ah mais alors là, Olivier, aujourd'hui vous nous proposez une recette qui va plaire à Pierre, et non pas qui va Pierre à plaire, parce que sinon ça n'aurait vraiment aucun sens, on est d'accord. Il a ça en commun avec mon fils de 7 ans, les frites.
Bah, Pierre, vous êtes à moitié belge.
Je ne me trompe pas. Aux yeux de la religion belge, je suis belge, ma mère était belge.
Et on me dit que l'une de vos madeleines de Proust, ce sont les frites que vous faisiez votre maman.
Ah oui, je n'ai jamais remangé ça, mais sans doute parce qu'elles avaient le goût d'une enfance chérie, et que par conséquent, ça, personne, à part ma mère, ne pourrait me le redonner aujourd'hui. Mais enfin, il y en a de bonnes. On en a mangé de très bonnes.
Voilà, je vais essayer de vous donner quand même les 3 commandements pour réussir de manière infaillible des frites exceptionnelles qui vont se rapprocher, qui n'atteindront pas le niveau, évidemment, mais qui vont se rapprocher de celles de votre mère. Premier commandement, la variété des pommes de terre. La binche, bien sûr. Il faut une pomme de terre à chair farineuse.
Alors, ça se trouve partout, ça ?
Oui, ça se trouve assez facilement en ce moment, même dans les grandes surfaces.
Oui.
On les épluche, on les laisse tremper dans l'eau. Très important, au moins une heure, parce que ça
permet
de dégager un petit peu de l'amidon, et il n'y en aura pas trop. L'amidon, c'est l'ennemi de la frite, ça fait des frites molles. Ouais. Donc on les laisse tremper dans l'eau. On les coupe ensuite assez grossièrement. Moi, j'aime bien une taille plutôt épaisse, hein, pas de la trop petite taille.
Oui.
On est d'accord ?
Oui, absolument.
Voilà.
Absolument.
Premier bain, et alors là, deuxième grand commandement essentiel, c'est la matière grasse. Dans de la
graisse de bœuf.
Exactement, du blanc de bœuf. Et là aussi, on peut commencer à en trouver, même dans les grandes surfaces.
Il y en a en vente. C'est un peu plus compliqué.
C'est un peu plus difficile, ouais. Ça demande un peu de recherche, ouais. Mais franchement, on est récompensé. Premier bain, cuisson lente. 140 degrés pendant 8-9 minutes. C'est un petit peu long, mais ça permet de blanchir la frite et de la cuire à cœur. Ensuite, troisième commandement fondamental, le temps de repos. Il faut que les frites refroidissent totalement entre le premier et le deuxième bain. C'est ce qui va permettre d'avoir une frite croustillante.
Vraiment, il faut qu'elle soit froide.
Certains les mettent même au frigo. On peut à la limite, si on veut accélérer un petit peu.
C'est pas sacrilège.
Voilà. Et ensuite, deuxième bain, 180 degrés, 2 minutes 30. Et c'est là qu'on a la frite qui croustille. Voilà. Si vous faites ça, je vous garantis des frites exceptionnelles.
Alors pourquoi il vous a fallu à peu près 2 heures pour faire ces frites chez moi la dernière fois, sachant que vous avez coupé l'installation électrique, ça a fait sauter les plombs parce que vous avez posé la friteuse sur les plaques à induction.
Eh bien, c'est vrai.
Là, vous avez dit 9 minutes et 3 minutes. Là, on est, le compte n'y est pas.
Hein. Non, mais vous avez mal compté parce qu'il faut 1 heure de temps de trempe des pommes de terre dans l'eau.
Oui,
et il faut au moins 1 heure de temps de refroidissement entre les deux
bains. C'est pour ça. Le c'est pour ça que l'apéro a duré longtemps.
Oui,
je vois. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
Changez votre tableau électrique.
Oui, je vais changer pour votre prochaine venue, la prochaine fois.
Oui, parce que ça ne marche pas forcément avec des Duracell. Hein, ça s'épuise.
Hier, nous recevions le plus grand dessinateur de presse français, Plantu. Aujourd'hui, le plus grand comédien français, Pierre Arditi. Je ne sais pas qui s'occupe de la programmation de cette émission, mais c'est quand même pas mal fichu.
Europe 1.
Vous écoutez toujours l'équipée sauvage et je me mets à votre place. L'attente doit être intolérable. Votre femme, votre mari, vos enfants, vos projets, tout ça n'a plus aucune importance car vous ne vivez que pour une question. Qui va être élu chroniqueur du jour chez Noël? Un pronostic, Eva, je vous sens stressé.
Je m'en fous surtout.
Oui, bon, bah, à tout de suite quand même.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'heure du verdict a sonné pour les journalistes d'Europe 1. Ils étaient 4 à se mesurer aujourd'hui. Ils ont tout donné, ils sont là, épuisés, vidés, comme à la fin d'une partie carrée chez Frédéric Becbédé.
J'étais allé une fois, c'est vraiment décadent.
Bon, on va pas savoir, Nicolas, on va pas savoir. Ce qu'on veut savoir, en revanche, c'est lequel d'entre vous va être élu chroniqueur du jour sous l'œil attentif de notre invité d'honneur aujourd'hui, Pierre Arditi, qui était venu nous présenter sa pièce. Il est tous les soirs au théâtre, donc Compromis, au Théâtre des Nouveautés à Paris, avec Michel Leb. Mais un livre va sortir.
Oui, c'est le 10 octobre et c'est chez Hugo et compagnie. Ça s'appelle Le goût de ma vie.
C'est sympa, c'est une balade au milieu des fameux goûts en question, du vin, de la bouffe et de la vie.
Vous êtes un hédoniste, hein, vraiment, Pierre?
Non, je suis un épicurien. Un hédoniste, c'est pas du tout la même chose. Vous connaissez la différence?
Oui, c'est vrai.
Oui, dites-moi, c'est quoi la différence?
Eh bien, un hédoniste fait tout et n'importe quoi,
non.
Tandis que l'épicurien, il y a une notion de raison dedans. Il sait se limiter aussi. Ça
c'est exactement le contraire. Et donc, ça n'est pas grave, vous nous quittez en première semaine. Vous emportez un jeu de Monsieur Cinéma et des places gratuites pour aller voir Compromis dès que vous voulez.
Pierre Arditi était notre invité, mais c'est le moment de découvrir Eva. Qui a été élu chroniqueur du jour? On commence par le vote du public.
Eh bien, à 1% près, c'est le Didé qui gagne. Jean-Philippe Ballas, vous gagnez les 2 points.
Il a eu un petit rire satisfait absolument dégueulasse. Jean-Philippe Ballas, vous marquez 2 points, les points du public. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui parce que je suis un homme qui aime découvrir de nouvelles cultures à Angèle Châtelier pour le rock mexicain.
Merci,
je crois que je vais me faire une petite playlist, ça va m'aider pour le sport. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur, Pierre Arditi. Je ne sais pas si vous mesurez la responsabilité qui pèse sur vos épaules. En effet, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur Europe 1 du jour?
Non, mais c'est horrible.
Ben, c'est principe, c'est principe.
De juger, quoi. Non, je vais donner ma voix. Ah, comment vous l'avez appelé déjà, ce type qui ricane tout le temps? Monsieur quoi? Comment
il s'appelle? Monsieur Fauderche.
Monsieur Fauderche.
Vous donnez vos points, Monsieur Fauderche.
Oui, John Fauderche. Non, pas que j'adore les autres, c'est pas le problème, mais parce qu'effectivement, le document est assez saisissant et que voyez, il en parle plutôt bien. Mais la petite tatouée a très bien parlé de ce rock mexicain qui n'a de rock que le nom. Et notre petite copine qui a fait le pitch de la pièce l'a très bien fait. Quant au sport des cantoniens, tout le monde était très bien, franchement. Mais
j'ai gagné.
Mais Jean-Philippe Ballas,
c'est votre document.
C'est votre document et pas vous. Mais vous avez les 3 points et même les 5 points. Carton plein aujourd'hui pour Jean-Philippe Ballas qui remporte l'équipée sauvage. Merci à tous. C'était la 29e édition de notre équipée sauvage. Merci beaucoup Pierre Arditi d'avoir été nous avoir accompagné.
C'est moi qui vous remercie. Moi je donne un point spécial à l'ensemble de vos chroniqueurs qui sont mieux que des chroniqueurs. Ce sont des gens intelligents, attractifs, séduisants. S'ils étaient tous comme ça, on se déplacerait volontiers à 4h du matin pour venir faire une émission à la con comme la vôtre.
Pierre Arditi, vous retrouvez au Théâtre des Nouveautés dans Compromis avec Michel Leb jusqu'au 5 janvier, puis en tournée dans toute la France. Puis La Belle Époque, le nouveau film de Nicolas Bedos le 6 novembre. Et également, je remercie évidemment ma Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Eva Roch, Angèle Châtelier, Jean-Philippe Ballas, Jérôme Lacroix et Nicolas Caro. Merci aussi aux forçats de l'ombre, Claire Dutronc, Sébastien Bordenave, Philippe Amardaï, Romain Causeur et Oriane Alévi. L'équipe est sauvage revient demain 16h en public, les amis, avec Jean-Paul Roux.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.